9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Dans 10 minutes, la Libre Antenne, rejoignez-nous, on vous attend nombreux au standard. Mais d'abord la dernière édition d'Afrique Matin, bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Juan, bonjour à tous. La situation dans l'est de la RDC à la une de ce journal, à Goma d'abord. Sous contrôle du M23 soutenu par le Rwanda où il manque de tout, de l'eau, de l'électricité mais aussi de liquidité, les banques sont à l'arrêt. Un point sur le terrain avec des combats répertoriés dans le sud Kivu à quelques kilomètres de Calais centre, localité également aux mains du M23, cette situation au cœur du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Dans ce journal également, les autorités sénégalaises qui annoncent l'ouverture d'enquêtes judiciaires après les anomalies décelées par la Cour des comptes sur la gestion des fonds publics entre 2019 et 2024. Sous Macky Sall, les nombreuses réactions en Côte d'Ivoire après les condamnations de Justin Koua et d'Amana Picas, et puis le Ghana qui poursuit sa marche en avant contre la corruption. Ce sera en fin d'édition. De nouvelles avancées enregistrées hier par le groupe M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé soutenu par le Rwanda contrôle désormais les localités d'Iusi et de Calais centre dans la province du Sud Kivu. Des combats ont également été répertoriés ce jeudi à quelques kilomètres de Calais centre et plus au nord, sur la rive opposée du lac, à Goma. Tout vient à manquer, l'eau, l'électricité, les produits médicaux, mais aussi les liquidités. Les activités des banques et des coopératives de la capitale du Nord Kivu sont à l'arrêt, ce qui inquiète d'une part les opérateurs économiques, d'autre part les habitants. Récit David Baché.
Dans le centre-ville, les activités ont repris, mais difficilement. Et pour cause, toutes les banques sont fermées. Seules quelques opérations de retrait sont possibles. Résultat, les liquidités circulent moins, ce qui inquiète les commerçants, comme ce revendeur de crédit téléphonique.
Pour le moment, il y a une difficulté d'argent. Nous sommes en train de terminer toute la journée. Sans toutefois avoir le dépôt, les banques sont fermées. Nous sommes en train de solliciter les autorités compétentes de nous aider d'ouvrir des banques.
Cette habitante de Goma témoigne également de ses difficultés.
Nous ne trouvons pas de cash et ceux qui en ont le revendent avec 10% de plus-value. Et je n'ai pas les moyens. Nous souffrons beaucoup et le travail ne marche pas. Il faut que les autorités ramènent la paix et rouvrent les banques pour que nous ayons de l'argent.
L'association des cambistes du Nord Kivu alerte sur le risque d'une crise de liquidité. Mercredi, le gouverneur du Nord Kivu, nommé par le M23 Alliance Fleuve Congo, a échangé avec les responsables des institutions bancaires à Goma. Objectif, rouvrir les banques dans un délai bref et dans de bonnes conditions de sécurité.
Goma, où était de passage la délégation de la CENCO et de l'ECC cette semaine, les représentants des églises catholiques et protestantes du pays y ont rencontré le coordinateur de l'AFC, dont le M23 est membre. Hier, ils ont fait escale à Kigali, où ils ont rencontré le président rwandais Paul Kagame. On ne sait néanmoins pas ce qui s'est dit lors de cette rencontre, et dans les prochaines heures, la délégation est attendue en Europe pour rencontrer des personnalités politiques congolaises, notamment des opposants. Sachez que ce vendredi, une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est annoncé lors du sommet annuel de l'UEA à Addis Abeba. C'est la première ministre congolaise Judith Suminwa qui participera à la réunion d'aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi prendra part, lui, demain au sommet des chefs d'État, précise la cellule de communication de la présidence. Le chef de l'État qui, selon cette même source, est arrivé hier à Munich en Allemagne pour participer à une conférence sur la sécurité. Au Sénégal, les suites des anomalies décelées et révélées par la Cour des comptes en ce qui concerne la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024, soit sous la présidence de l'ancien président Macky Sall. Hier, les nouvelles autorités annoncent l'ouverture d'enquêtes judiciaires sur de potentiels délits financiers, alors que de leur côté, des responsables de l'ancien régime parlent de machination politique. RFI Dakar, Léa Lisa Vesterov.
Une dette et un déficit budgétaire supérieurs à ceux annoncés par le régime sortant. La Cour des comptes pointe aussi des opérations financières non retracées dans les comptes de l'État et des anomalies. Des manquements qui, pour le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, méritent l'ouverture d'une enquête, car ils pourraient constituer des délits potentiels comme des
détournements de deniers publics, escroqueries portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres.
Pas de nom, mais la promesse d'enquête. Les membres du parti de l'ex-président Macky Sall n'ont pas tardé à réagir. Pape Malick Ndour, ex-ministre de la Jeunesse, dénonce, je cite, « une machination politique et un contre-feu du gouvernement ».
Ousmane Sonko est un partisan de la fuite en avant. Mais il a toujours trouvé des prétextes fallacieux pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Les promesses de rupture, de transformation systématique, ayant fondu comme neige au soleil, lui et son président délégué cherchent par la manipulation à se défausser sur les fonctionnaires de l'État.
Dans l'immédiat, hier, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre des réformes rapides pour garantir, je cite, la soutenabilité budgétaire du pays. Un signal clair de bonne volonté aux bailleurs internationaux et au Fonds monétaire international. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
L'imam Diko rentrera-t-il à Bamako? L'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, très influent dans le pays, est devenu l'un des principaux opposants des militaires au pouvoir. Il avait par exemple dénoncé une transition sans trajectoire et qui ne finira jamais. Mahmoud Diko en exil en Algérie depuis plus d'un an, mais ses soutiens annoncent son retour au pays cet après-midi. On suit évidemment ce dossier sur nos antennes et sur notre site internet rfi.fr. Au Burkina Faso, cette attaque mercredi du détachement de gendarmerie de Tanwalbougou dans la région de l'Est, à une cinquantaine de kilomètres de Fadangourma. Des dizaines d'hommes armés ont pris d'assaut la brigade de gendarmerie. Au moins 6 gendarmes ont été tués et 6 volontaires pour la défense de la patrie sont portés disparus. Un véhicule, un drone de surveillance et des armes ont été emportés par les assaillants selon une source sécuritaire. Et le reste du matériel, dont un drone et le stock d'aliments, a été incendié par les assaillants. Justice en Côte d'Ivoire après la condamnation de 2 responsables politiques du parti de Laurent Gbagbo, 10 ans de prison chacun dans 2 affaires distinctes. Justin Kwa et Damana Picasse, 2 cadres du PPACI, le premier reconnu coupable de troubles à l'ordre public dans les violences préélectorales de 2020. Le second reconnu coupable d'atteinte à la défense nationale dans le cadre de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo en avril 2021. Et les réactions sont nombreuses sur place. Binta Diagne les a récoltées.
Pour les avocats de la défense, Justin Kwa et Damana Picasse ont été condamnés en raison de leur fonction politique. Ils affirment que les preuves contenues dans leur dossier ne sont pas établies et ils expriment une certaine amertume. Maître Jonas Zadi.
C'est un verdict politique parce que ceux qu'on condamne ici sont des gens qui sont proches des fidèles lieutenants, je dirais, du président Laurent Gbagbo. Ceux qui ont toujours pris sa cause et qui vont descendre dans l'arène et puis véhiculer son message politique. Et vous savez, les élections, c'est pour bientôt.
Le parquet assure de son côté que l'instruction de chaque dossier a été menée selon les règles du code de procédure pénale. Omar Bramankone, le procureur de la République.
Nous n'avons pas poursuivi M. Damana Picasse en raison de sa qualité d'homme politique. Non, Damana Picasse a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves, qui lui sont reprochés. Le dossier qui était en notre possession est qu'on transporte dans une brouette pour aller à l'audience parce qu'il y a assez de pièces. Ce qui nous a permis de dire clairement haut et fort que Damana Picasse était le principal financier de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo.
Les avocats de la défense ont annoncé leur intention de faire appel de cette décision en attendant leurs clients sont libres et sous contrôle judiciaire. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
À la fin de ce journal, au Ghana, où le président John Dramani Mahama poursuit sa lutte contre la corruption. Dans un communiqué publié cette semaine, la présidence a annoncé la découverte de plus de 80 000 noms fantômes dans la liste de paix de l'autorité du service national. Le chef de l'État a donc ordonné l'ouverture d'une enquête. Les détails avec Walid Diallo.
Tout est parti d'une opération de gestion des arriérés de paiement. Sous l'ancienne présidence, l'autorité nationale avait dénombré environ 180 000 personnes au sein de l'organisation. Mais après inspection des services du président Mahama, il n'y a finalement que 98 000 vrais membres du personnel. Donc, à peu près la moitié des noms enregistrés à l'ASN sont des noms fantômes. L'enquête devra alors clarifier le montant des paiements émis pour ces noms fantômes et les personnes à l'origine de la manœuvre. Selon la présidence, le ministère des Finances a débloqué environ 126 millions de cédis ghanéens, environ 14 millions de dollars, pour rembourser les arriérés de paiement. Le directeur de l'agence nationale, Félix Gambibi, a annoncé que tous ceux concernés par les arriérés recevront le remboursement dans les jours à venir. Le gouvernement a souhaité agir rapidement. La lutte contre la corruption était l'une des promesses de campagne du président Mahama. Au Ghana, un service national est obligatoire pour tous les jeunes de 18 ans et plus. L'autorité du service national est donc chargée de superviser ces placements obligatoires avec des milliers de nouveaux inscrits tous les ans.
Explication Wely Diallo. Et il est l'heure de vous laisser avec Juan Gomez pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité.
Merci.